au premier forum, nous avions parlé de l'urgence de l'éducation. Donc, l'année dernière, nous avions parlé sur le rapport liberté et loi. Et dans ce troisième forum, nous allons parler de la conscience et de la vérité. Au terme du forum de l'année dernière, nous avions prié Notre-Dame-des-Neiges de nous inspirer de nouveaux moyens d'action en vue de l'éducation à la vraie liberté, dans la vérité et de l'obéissance à la loi de Dieu. Nous étions aussi conscients qu'il était de notre devoir de ne pas laisser l'Europe et la France perdre leurs racines chrétiennes. Nous désirions aider nos contemporains à découvrir qu'à l'est et à l'ouest de la vieille Europe, la Russie et les États-Unis se réveillent. Au sud, l'Église d'Afrique était en train de révéler sa maturité en ne craignant pas de s'adresser à l'Église européenne qu'il avait évangélisée et en l'appelant à la fidélité. Une année a passé, le monde non seulement n'a pas changé, mais il est davantage encore esclave des dictatures du relativisme. La vérité est de moins en moins tolérée. Nous le voyons avec les débats actuels en bioéthique et le combat pour la vie. Les tenants du relativisme se révèlent de plus en plus intolérants, car cette idéologie tolère tout, sauf la vérité objective, sauf l'Église catholique. Benoît XVI a bien raison de parler de dictature du relativisme et de christianophobie. Notre Saint-Père a choisi la devise « coopérateur de la vérité ». Il parle souvent, en citant le grand saint Augustin, de la vérité avec un grand V. Saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure et tous les grands penseurs chrétiens réalistes ont été convaincus de l'existence d'une vérité objective. Ils savaient bien, en effet, que sans elle, aucune science universelle n'était possible. S'il n'y a pas de vérité objective, le dialogue et la confiance entre les hommes deviennent impossibles. S'il n'y a pas de vérité objective, il ne peut pas non plus exister de fidélité à la parole donnée. Ce serait alors la civilisation du soupçon et du mensonge. Pour préparer cette introduction, j'ai tapé sur Google « Dieu, fondement de la vérité ». Descartes était en premier. Dans sa philosophie, en effet, ce n'est pas l'évidence de l'objet qui fonde la vérité, mais l'idée claire et distincte qui me vient directement de Dieu. Nous ne partageons pas la conception idéaliste de Descartes et nous vous dirons pourquoi. La seconde personne citée est Gandhi, pour qui la vérité est Dieu. Je vous cite ce passage de Gandhi qui a été écrit en 1931 et que je trouve très intéressant. « J'ai pensé, disait Gandhi, que plutôt de dire que Dieu est vérité, je devrais dire que la vérité est Dieu. En général, nous comprenons le mot vérité pour dire la vérité, mais il doit être pris dans un sens beaucoup plus large. Cela veut dire vérité en pensée, en parole et en acte. Et nous avons autre chose dans la philosophie hindoue, c'est que Dieu seul est et que rien d'autre n'existe. En fait, le mot pour vérité signifie littéralement ce qui est. Ce célèbre hindou non violent, par sa conclusion, nous introduit d'une manière magistrale dans le thème de notre forum. C'est parce que tous aujourd'hui prétendent au droit de la conscience sans passer par aucune discipline, quelle qu'elle soit, qu'il y a tant de fausses vérités assénées à un monde dérouté. Tout ce que je peux en toute humilité vous présenter est que la vérité ne peut être trouvée par n'importe qui, à moins qu'il n'ait un abondant sens de l'humilité. Si vous voulez nager au sein de l'océan de la vérité, vous devez vous réduire à zéro. Donc, c'est la citation de Gandhi. La troisième personne citée sur Google est un pasteur. Un pasteur pour qui le fondement de la vérité est la parole de Dieu, la vérité, selon la déclaration de Jésus lui-même, « Ta parole est la vérité », Jean 17, 17. Efforçons-nous à présent de comprendre pourquoi le fondement de la vérité est Dieu. Celui qui cherche à répondre à la question « pourquoi ?» et pas seulement à la question « comment ?» ne peut pas ne pas se poser la question de Dieu, la cause première de tous les êtres visibles de ce monde. Le monde est si bien ordonné. L'homme est un être tellement complexe. Les lois physiques et les lois biologiques sont tellement bien programmées que le hasard et la nécessité ne peuvent pas en rendre raison. Seul l'être qui n'a pas commencé d'exister, l'être qui est lui-même, par lui-même, peut rendre raison de l'existence de tous les autres êtres qui, eux, ont commencé d'être. Pour arriver à cette conclusion, il faut, c'est évident, une ascèse et une rigueur intellectuelle et un cœur et une volonté en recherche de la vérité. Avant d'arriver à cette ultime conclusion, le philosophe dit réaliste parce qu'il se soumet au réel qui s'impose à lui, découvre, en observant les êtres du monde réel, deux co-principes communs à tous, l'existence et l'essence. Alors, je vais vous expliquer petit à petit, que cela ne fasse pas peur. Tout être existe. C'est une évidence pour chacun de nous. Lorsque je vois un être, une chose, je dis « c'est quelque chose, c'est quelqu'un ». En disant « c'est », j'affirme l'existence de cet être qui s'impose à moi. Ainsi, le premier co-principe de l'être de mon expérience est l'existence de cet être. Tout homme est capable ensuite de comprendre la différence entre l'existant et l'idée. L'idée d'un million d'euros que je peux avoir dans ma pensée est bien distincte du million d'euros que je pourrais avoir en banque mais que je n'ai pas. Le rêve n'est pas la réalité. Le deuxième coprincipe, l'essence, n'est pas difficile à comprendre. Nous constatons, entre les divers existants de notre expérience, des différences. Je dis bien que l'homme est, que l'ours est, que le chien est, que la rose est, mais je vois bien que l'homme n'est pas un ours, que le chien n'est pas une rose, que la plante n'est pas une pierre. Ainsi, l'existence a bien quelque chose de commun en chacun des êtres, mais il y a aussi des différences entre chacun des êtres. En voyant tel homme concret, tel chien, telle plante, j'affirme son existence en disant « c'est », mais tout de suite, je spécifie cet existant en disant « c'est un homme, c'est un chien, c'est une plante ». L'attribut de ma phrase est donc bien ce que le philosophe appelle l'essence, mot qui se traduit tout simplement par l'expression « ce que c'est ». Voilà. Qu'est-ce que l'essence ? Eh bien, c'est ce qu'est un être. D'où vient donc l'essence commune à tous les hommes, commune à tous les chiens, commune à toutes les plantes ? Elle vient de celui qui l'a pensée avant de la créer, et nous le nommons Dieu. Prenons un exemple concret. Tout homme qui est un peu spécialiste des voitures sait distinguer une 205 d'une 306, d'une 408 et de bien d'autres voitures. Vous allez me dire, je ne fais que la réclame des Peugeot. Mais rassurez-vous. Bon. Donc, d'où vient ce qu'on pourrait appeler la nature ou l'essence 205, 306 ou 408 ? Tout simplement, de celui ou de ceux qui l'ont conçu. C'est donc à cause de l'essence, qu'au principe avec l'existence, que l'on trouve dans tous les êtres de ce monde visible, que l'on dit que tout est intelligible. Tout homme, en effet, mais à condition de s'astreindre à une ascèse intellectuelle, peut découvrir l'essence de tous les êtres, la définir, la distinguer des autres essences, la classer. Sans cette intelligibilité des êtres, aucune science ne serait possible, aucun cours théorique ne pourrait être donné. Nous avons dit que nous ne partagions pas la philosophie de Descartes, en voici la raison. Pour connaître la vérité des choses, je n'ai pas besoin d'être éclairé à tout moment par Dieu qui me communique l'idée claire et distincte de la chose. Car par mon intelligence, je peux abstraire dans l'être concret qui se présente à moi l'intelligibilité ou l'idée contenue en elle et qu'en métaphysique, nous appelons l'essence. J'espère ne pas avoir été trop compliqué. Vous pourrez poser vos questions après les trois interventions qui vont suivre, mais il est important que vous repartiez de ce forum avec la conviction qu'il existe une vérité objective, que cette vérité s'impose à moi et que le fondement de cette vérité est Dieu. Je partage tout à fait le témoignage de Gandhi. Sans humilité, on ne peut pas arriver à cette conviction. L'orgueil intellectuel, en effet, nous menace tous. Le « moi » voudrait être le centre du monde. Le « moi » voudrait donner son propre sens aux êtres qui l'entourent. Mais qui est donc ce « moi » qui se prend pour Dieu vérité ? Je n'ai pas parlé, j'en suis bien conscient, de la vérité morale. J'ai parlé de la vérité tout simplement. Mais nous développerons cela tout au long du forum. Je me suis contenté de vous donner le fondement de la vérité qui est Dieu et de découvrir justement la raison de l'intelligibilité de toute chose, car Dieu a tout créé non pas par une volonté fantaisiste, mais Dieu a tout créé par sagesse. Tout ce que Dieu a créé a été pensé. Et c'est donc mon intelligence qui retrouve dans la création toute l'intelligibilité qui vient de la pensée de Dieu. Voilà le fondement de la vérité. Alors maintenant, nous allons écouter le témoignage de frère Xavier sur la vérité pour Jean-Paul II. Ensuite, frère Clément-Marie parlera de la vérité pour Benoît XVI. Et puis sœur Geneviève parlera de la vérité pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis ensuite, nous aurons un échange libre. Alors dans cet échange libre, vous exprimez ce que vous voulez. Et après le forum, tous ceux et toutes celles qui veulent apporter leur participation, leur contribution au forum, pour mettre dans les actes, eh bien nous accueillerons volontiers toutes les réactions qui seront les vôtres pour qu'on les introduise justement dans les actes du forum. Parce que plus on étudie la vérité et la conscience morale sous divers aspects, et plus on enrichit notre pensée. Voilà. Alors, frère Xavier, maintenant...